L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, éditorialiste au Point et au Figaro, avec François Bugeon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Comme vous le savez, ce dimanche est un dimanche d'élection. Qui dit dimanche d'élection dit pas un mot sur la politique intérieure. Nous commencerons donc par nous intéresser à la Russie. Vladimir Poutine s'est exprimé le 15 juin au cours de la dernière édition du programme télévisé Ligne directe. Cette émission, organisée tous les ans, est l'occasion pour le président de répondre aux questions du public sur son action politique en Russie et à l'étranger. Le chef de l'État est largement revenu sur son bilan économique. Il s'est félicité d'un retour de la croissance malgré un taux de pauvreté passé de 10,7 à 13,5% entre 2012 et 2017. Il a mis en avant une augmentation régulière du produit intérieur brut national ainsi qu'une baisse de l'inflation de 7 à 4,1%. Il a érigé comme objectif prioritaire l'augmentation de la productivité du travail, faute de quoi, a-t-il dit, il n'y aura ni création d'emplois ni augmentation des salaires. Il a dénoncé des sanctions internationales qui frappent la Russie dès qu'elle relève la tête, mais il a affirmé qu'elles avaient indirectement provoqué la restauration des industries aéronautiques et surtout du secteur agricole. Moscou est devenu le premier exportateur mondial de céréales avec plus de 34 millions de tonnes. Interrogé sur l'image de la Russie à l'étranger, Vladimir Poutine a déploré une hystérie russophobe en Amérique, mais il a interprété cet épisode comme une conséquence des troubles politiques intérieurs qui secouent les États-Unis. Il a appelé à la poursuite des échanges avec Donald Trump pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires et pour la protection de l'environnement, mais il s'est inquiété d'un regain d'activité militaire américaine en Arctique. Il a appelé à un dialogue constructif sur le dossier syrien et il a mis en avant l'expérience acquise par l'armée russe sur ce théâtre d'opération. Vladimir Poutine n'a pas révélé ses intentions quant à la prochaine élection présidentielle en mars 2018. Il pourrait briguer un quatrième mandat. Il s'est dit ouvert à la discussion avec tous ceux qui veulent améliorer les conditions de vie de la population, mais pas avec ceux qui utilisent un contexte difficile pour se mettre en avant. Cette intervention télévisée du chef de l'État intervient alors que des milliers d'opposants ont manifesté lundi dernier à travers la Russie dans le cadre d'une journée de mobilisation contre la corruption des élites. Leur chef de file, Alexei Navalny, a été interpellé et condamné à 30 jours de détention, ainsi que des centaines d'autres manifestants, souvent très jeunes. Ce blogueur de 41 ans a acquis une grande notoriété sur les réseaux sociaux avec la diffusion de films dénonçant les abus des élus et des oligarques. Il a annoncé son intention d'être candidat à la prochaine élection présidentielle malgré sa récente condamnation à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds, condamnation que ses partisans affirment ne reposer que sur des preuves fabriquées. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, vous avez évoqué cette émission télévisée Ligne directe. J'ai regardé le début.
Vous avez été correspondante du Monde à Moscou.
À Moscou, absolument, il y a quelque temps. Donc, j'ai regardé le début. Je vous avoue honnêtement que je n'ai pas regardé les 4 heures. C'est une émission qui a lieu tous les ans. C'était la 15e du genre et qui est assez intéressante. Je dois dire, il n'a pas battu son record de 2003 qui était de 4h48 minutes. Là, on s'est limité à presque 4 heures. Il a répondu à 68 questions. Alors, c'est toujours intéressant d'écouter ces questions, même si elles sont évidemment pour la plupart filtrées. Et on voit qu'année après année, les nids de poules sur les routes y occupent une place assez importante. Mais il y a des choses plus révélatrices. Et par exemple, là, cette année, on a vu qu'il y a eu pas mal de questions sur l'avenir du pays. Les électeurs et les téléspectateurs avaient l'air, parce que c'est diffusé sur un certain nombre de chaînes de télévision, ont l'air inquiets de l'avenir de leur pays, de leur économie, de l'orientation que prend leur pays. Et c'est intéressant parce que ce questionnement intervient au bout de 17 ans de pouvoir poutinien. Mais avec, il en est à son troisième mandat. Il y a eu un petit intermède entre 2008 et 2012, puisque pour des raisons constitutionnelles, il ne pouvait pas être candidat après deux mandats. Donc, il s'est fait remplacer par Dmitri Medvedev. Ils ont changé, enfin, ils ont échangé leur poste pendant 4 ans, et puis il est revenu donc en 2012. Et là, on voit qu'il aborde. Alors, il n'est en effet pas. Il n'a pas dit s'il serait candidat en mars 2018. Je pense qu'on peut s'en prendre trop de risques, supposer qu'il le sera. Et si c'est bien le cas, il aborde cette élection à la fois en position de force, puisque sa cote de popularité n'est, je crois, pratiquement jamais descendue en dessous de 80%, ce qui est quand même extraordinaire, même si on peut y mettre quelques bémols. Mais enfin, je pense qu'il est réellement populaire. Il n'a pas de véritable opposant, enfin, en tout cas d'homme politique ou de femme politique qui puisse présenter une alternative crédible à ce stade à l'élection présidentielle, même s'il y a un opposant dans la rue, vous l'avez cité, c'est Alexei Navalny, on y reviendra, je pense. Mais il y a aussi il est aussi en position de faiblesse d'une certaine manière à cause de l'incertitude qui pèse sur son pays. D'abord sur l'économie. C'est vrai que la croissance a un petit peu repris après 2 ans de récession, mais c'est une économie qui est quand même dans un état. Il n'a pas réussi à la transformer. C'est une économie qui reste une économie de matières premières. Il a tout à fait admis qu'il y a un gros problème avec la productivité. Le saut technologique ne s'est pas du tout produit. Donc, il y a cette légendaire résilience russe qui fait que le pays ne s'est pas effondré, l'économie ne s'est pas effondrée avec face aux sanctions occidentales ni à la baisse du prix du pétrole, mais ça n'est pas satisfaisant et il l'a bien noté, la pauvreté reste un vrai problème puisqu'il a dit sa priorité pour les années à venir doit être de faire augmenter les revenus des gens. Sur le plan international, l'effet Crimée qui avait rassemblé les gens dans un grand élan national, fierté d'avoir repris ce territoire, etc., s'est émoussé très nettement. Et puis, on est dans l'impasse sur l'Ukraine. La Syrie, ça a été excellent pour l'armée et le complexe militaro-industriel. Sur le plan diplomatique, aucun succès particulier. On n'est toujours pas plus près d'une solution. Les relations avec les États-Unis et l'Europe sont très mauvaises. Il y a un climat d'hostilité assez profond aux États-Unis. Avec l'Europe, c'est très froid. Je dois dire qu'à cet égard, la visite de Vladimir Poutine à Versailles était très révélatrice parce qu'il a encaissé, on l'a vu encaisser en serrant les dents, mais les remontrances d'Emmanuel Macron à Versailles de manière impressionnante. Et je crois que pour lui, c'est le prix de la reprise du dialogue, de se faire la leçon comme ça par un jeune président fraîchement élu. Et puis, en politique intérieure, l'opposition institutionnelle est quasiment inexistante, mais il reste ce gros os de la corruption qui est l'argument sur lequel Navalny arrive à mobiliser les gens et de manière plus impressionnante encore qu'il y a quelques années, parce qu'on voit que maintenant cette contestation, même si elle est très minoritaire, mais elle est très remuante et elle s'est étendue géographiquement de manière considérable. Et surtout, on voit maintenant les jeunes entrer en action. Ce sont des jeunes qui souvent n'ont connu que Poutine. Ils ont grandi avec Poutine. C'est vraiment la jeunesse russe des mandats de Poutine. Et je crois que là, il y a quelque chose qui peut être un sérieux motif d'inquiétude pour lui.
Nicolas Bavrez.
Il est vrai que Vladimir Poutine joue un gros jeu international avec une main qui est en fait de plus en plus faible. Et c'est cette tension aujourd'hui qui d'ailleurs peut produire des crises et des risques. Finalement, le pouvoir de Vladimir Poutine s'est fondé sur 3 grands piliers. Le premier, c'était la restauration du pouvoir de l'État. Le second, c'était la croissance et la distribution de revenus. Et le troisième, c'était le nationalisme, l'orthodoxie et la contestation d'un ordre du monde qui était considéré comme trop favorable et tenu par l'Occident. Or, aujourd'hui, ces piliers, ils sont tous les trois attaqués, le pilier économique étant évidemment le plus faible. Quand on prend l'État, Vladimir Poutine a réussi quelque chose d'assez impressionnant, c'est-à-dire que en face de la démocratie, il a réinventé une vraie alternative qui est la démocrature, c'est-à-dire des régimes qui allient hommes forts, contrôle de l'économie et de la société, manipulation du suffrage universel, guerre de l'information intérieure et extérieure, et puis expansionnisme à l'extérieur. Et c'est vrai que ce type de régime a exporté. Les Chinois sont intéressés par le côté manipulation de l'opinion, puisque même s'il n'y a pas de vote, il faut de plus en plus tenir compte de l'opinion. Et puis évidemment, la Turquie de Erdogan est en train de dupliquer ce type de structure. Mais en même temps, ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que on sent que il y a une forme d'opinion russe qui est en train de renaître et qui prend de la distance. Le deuxième pilier, celui-là, il est vraiment dans un très mauvais état, c'était le pilier économique, puisque on avait vu renaître une classe moyenne, et ce qui s'est passé depuis à la fois le contre-choc pétrolier et les sanctions, c'est l'effondrement de la classe moyenne, elle a baissé de 20 à 25%, l'augmentation très forte de la pauvreté, et aussi un critère qu'on oublie toujours et qui est fondamental, la baisse de l'espérance de vie. Baisse de l'espérance de vie dans un pays qui connaît déjà un krach démographique, il y aura quand même moins de 100 millions de Russes dans un espace qui est le plus grand du monde. Avec donc ce qu'on a dit, l'économie de rente des hydrocarbures, et puis à long terme, un manque de technologie, de capitaux, qui fait qu'il n'y a pas de modernisation, il n'y a pas de diversification possible. Le troisième pilier, c'est donc le pilier extérieur. Et là encore, on a vu une série impressionnante. C'est un régime qui est quand même en guerre permanente depuis 1999. Il y a eu la Tchétchénie, la Géorgie, l'Estonie, la Crimée, l'Ukraine, la Syrie. C'est quand même un résultat assez impressionnant. Et là encore, être en guerre permanente quand on a une démographie qui s'effondre, c'est de toute manière problématique. Et il est bien vrai que la modernisation de l'armée russe a été spectaculaire. Vladimir Poutine investit 4% du PIB. On a eu une démonstration extrêmement réussie en Syrie, où tous les systèmes d'armes ont été utilisés de manière coordonnée. On a eu en Crimée la démonstration d'une opération hybride très très bien conduite qui a permis de prendre le contrôle de la Crimée pratiquement sans tirer un coup de feu. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les choses sont bloquées. Donc en Syrie, c'est vrai que la Russie est incontournable, mais il n'y a pas de solution possible. Et elle est aussi, il y a un risque d'enlisement. L'enlisement, il est complet en Ukraine, pour un avantage stratégique qu'on ne voit pas. Si c'est l'idée d'avoir plus de mines et plus de mineurs, il y a déjà tout ce qu'il faut en Russie. Et par ailleurs, la Russie, elle a son axe avec l'Iran et la Turquie dans le Moyen-Orient, mais elle est de plus en plus isolée sur le reste. Pour l'économie, quand on compare avec la Chine, il faut voir qu'aujourd'hui, l'économie russe, c'est un quinzième de l'économie chinoise. Donc, c'est incroyable l'écart et par rapport à l'Occident. Donc, pour les États-Unis, de toute manière, c'est le blocage complet, puisque maintenant, l'administration Trump est tout entière bloquée sur la procédure qui a été mise en place, le début d'une procédure de destitution et la gestion du procureur indépendant. Et l'Europe, paradoxalement, les efforts de Poutine, un peu comme le Brexit, ont réussi ce résultat paradoxal que l'Europe, qui était un espèce d'ectoplasme et un ventre mou, que le mouton est en train de reprendre, non pas enragé, mais de reprendre de la vigueur et de la stratégie, et que le financement des partis extrémistes, la guerre de l'information, la déstabilisation de la campagne Macron, tout ça aboutit exactement au résultat inverse. Donc, quand on regarde froidement, à court terme, on peut avoir l'impression d'une politique de puissance qui a donné des acquis. À long terme, c'est exactement ce que De Gaulle disait. De Gaulle disait dans les années 60, la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'eau. Et bien, la Russie va finir par boire le poutinisme comme le buvard boit l'eau.
François Bujon de l'Étang.
Je suis frappé par le fait que nous sommes une émission d'actualité et nous parlons de la Russie aujourd'hui. Mais l'actualité concernant la Russie est toujours en Occident du moins, une actualité négative.
L'actualité remonte à la plus haute antiquité.
Mais c'est toujours une actualité négative qui amène à parler de la Russie. Alors je serai sûrement accusé de verser par M. Poutine et ses séides de verser dans l'hystérie russophobe, mais ce n'est pas du tout le cas, Dieu sait. Mais le fait est que toutes les raisons pour lesquelles nous parlons de la Russie aujourd'hui sont négatives. On en parle à cause de l'arrestation de M. Navalny et de milliers de jeunes opposants qui ont manifesté dans les rues de 80 villes russes ces temps-ci. On parle de la Russie à propos, comme vient de le faire Nicolas Bavrez, de la visite à Trianon, dans les pas de Pierre le Grand, et de la première rencontre avec le candidat que la Russie ne soutenait pas, puisqu'elle en a soutenu d'autres, comme chacun sait, donc c'était un échec. On en parle au moment où, aux États-Unis, coule alors pour le coup beaucoup d'encre sur les interférences cybernétiques et autres de la Russie dans l'élection américaine qui vaut le développement aujourd'hui d'une véritable saga puisque on parle d'impeachment, qu'il y a un procureur spécial qui enquête sur les connexions entre la campagne Trump et la Russie et que se développe, on pourrait presque dire, un nouveau maccartisme aux États-Unis où la sensibilité à l'égard justement de l'immixtion de la Russie dans les processus démocratiques occidentaux suscite des réactions très très fortes. Et le Congrès américain prépare une nouvelle batterie de sanctions contre la Russie, qui vont sans doute être votées dans le courant de l'été. Donc, toute l'actualité est négative, en réalité. Et quand on parle de la Russie, c'est à propos de la guerre en Syrie, des massacres d'Alep, des bombardements à l'arme chimique de son allié Bachar el-Assad, ou alors c'est parce qu'il y a une recrudescence de l'activité militaire dans le Donbass et que les accords de Minsk sont une fois de plus laissés lettre morte. Donc, on a beau s'efforcer d'ouvrir un œil bienveillant sur ce qui se passe à l'Est, on a beaucoup de mal à trouver des éléments de satisfaction et à échapper à cette batterie de récriminations à l'égard de la Russie. C'est quand même extrêmement intéressant. Donc tout ceci donne effectivement tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'atmosphère de guerre froide, c'est-à-dire les invectives réciproques, c'est-à-dire la prolongation ou le renouvellement d'un système de sanctions qui, mine de rien, pèse lourd sur l'économie russe. Voilà. Alors, évidemment, Poutine reste très puissant au sein de la forteresse Russie, disons. C'est vrai que les sondages d'opinion, dans la mesure où ils sont fiables, lui donnent toujours autour de 80%. Et si, comme il est vraisemblable, il se présente à la prochaine élection présidentielle en 2018, bien malin qui voterait contre les chances de succès de Monsieur Poutine. On voit bien qu'il n'y a aucune menace véritable à l'horizon. Il n'y a pas d'alternative crédible à M. Poutine, il n'y a aucun rival sérieux. Contre Alexei Navalny ou contre quiconque aurait la prétention, comme jadis Kasparov, de se présenter aux élections, on trouvera toujours des moyens juridiques ou autres d'interdire la candidature. Et la seule véritable crainte de Poutine, c'est la crainte d'une de ces manifestations, la crainte d'un Maïdan à la russe, si vous voulez, ou la crainte d'une révolution de couleur, puisque c'est son obsession, comme il s'en est passé dans le temps à Kiev, ou même la révolution des tulipes, d'ailleurs, en Kirghizistan. Alors, c'est très paradoxal, puisque nous avons un pays qui se comporte comme une citadelle assiégée, qui vit avec un complexe d'encerclement, qui continue de considérer les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne comme des puissances hostiles qui ont avancé jusqu'aux frontières de la Sainte-Russie et que, au fond, tout ce que Poutine a fait pour entretenir, nourrir ce complexe d'encerclement et cette espèce de xénophobie russe profonde rencontre des échos favorables dans les profondeurs du pays. Alors qu'en fait, l'ennemi véritable de la Russie se trouve probablement ailleurs. C'est évidemment pas les États-Unis, l'OTAN ou l'Union européenne qui sont les véritables ennemis de la Russie. C'est probablement beaucoup plus le terrorisme djihadiste qui menace un pays dans lequel il y a des populations population musulmane très très importante dans les républiques périphériques et qui d'ailleurs a déjà souffert des attaques terroristes sur son sol. Poutine le sait bien, il a bien identifié le djihadisme comme un ennemi potentiel. Mais paradoxalement, il continue de cultiver cette espèce de rêve ou de cauchemar dans lequel vit la Russie, qui se voit toujours encerclée, menacée et qui refuse de voir les connexions qu'elle peut avoir avec l'Occident, au point de préférer quelquefois d'autres fantasmes, comme le fantasme eurasiatique finalement, ou comme l'idée que nous précipitons la Russie dans les bras de la Chine. Bon. Pendant ce temps-là, effectivement, la population russe n'est que très médiocrement contente, et surtout, après les 17 ans de règne de M. Poutine et d'une politique étrangère extrêmement active sur la scène internationale, on a peine à voir ce que sont les succès dont il pourrait véritablement faire état. Ces succès ne sont pas bien nombreux, Nicolas Bavrez l'a dit, mais c'est vrai que, à part la Crimée, qui est incontestablement un succès, puisque c'était une annexion qui a été immensément populaire dans les profondeurs de la Russie, qui a toujours considéré la Crimée comme russe, il y a eu un regain de fierté, sursaut national, les autres entreprises de la Russie sur la scène internationale n'ont pas amené de succès spectaculaires. En Syrie, la guerre se prolonge, elle piétine, Bachar el-Assad reste toujours un problème, et les négociations de paix qui sont suivies, les tentatives de cesser le feu, en commençant par Astana, ne mènent finalement nulle part. Dans le Donbass, en Ukraine, les accords de Minsk sont là, on est en effet dans un cul-de-sac, dont la Russie n'est pas seule d'ailleurs à porter la responsabilité. Il y a une part de responsabilité avec les autorités ukrainiennes, il faut bien le voir, mais là encore, on voit la Russie encarafée, si j'ose m'exprimer ainsi, encarafée dans des problèmes dont on ne voit pas la solution et dont on ne voit pas vraiment le succès dont Poutine pourrait se vanter auprès de ses concitoyens.
Marc-Olivier Padis.
Oui, le tableau a été fait de façon assez complète par les trois interventions sur l'état un peu de la Russie. Je pense que la question générale qui est posée, c'est un peu la question posée par Nicolas Bavrez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un modèle alternatif ? Est-ce que Poutine est en train d'inventer un modèle alternatif ? Autre chose, on sait que au début de sa carrière, quand il est arrivé au pouvoir, il avait un discours qu'on appelle dans le contexte russe occidentaliste, c'est-à-dire c'était il faut se rapprocher de l'Europe, les valeurs de l'Europe sont nos valeurs. Nous allons respecter les droits de l'homme et ainsi de suite. Et puis on a vu progressivement une évolution de son discours, sinon de sa doctrine, pour aujourd'hui un discours qui valorise la dimension eurasiatique, c'est-à-dire vraiment continentale de la Russie, avec toutes ces contradictions, le fait que la Russie se considère aussi comme un acteur du nouveau monde émergent du côté asiatique, en tout cas du côté pacifique, et donc il n'est pas destiné à se tourner uniquement vers l'Occident, et à partir de là il a développé un discours sur la décadence de l'Occident, sur la faiblesse des démocraties, discours qui trouve tout de même des échos, y compris en Europe ou aux États-Unis, où évidemment notre système très ouvert de liberté d'expression, de pluralisme de la presse fait que toutes sortes d'opinions aussi contradictoires sont possibles. Mais la question, c'est s'il a une idéologie. Je crois que, Philippe, vous aviez fait une émission avec Michel Elchaninov, qui a écrit ce livre sur l'idéologie de Poutine, qui s'appelle « Dans la tête de Vladimir Poutine », un très bon livre. Est-ce que, au-delà de la construction, disons, de cette idéologie, est-ce qu'il arrive à convaincre ? Il y a quelque chose un peu de culturaliste parfois dans cette idée que, après tout, c'est vrai, la démocratie n'est peut-être pas adaptée à un pays qui est aussi un continent, qui sort d'une histoire qui a toujours été très autoritaire, etc. Bon, ce qu'on voit dans les mobilisations autour de Alexei Navalny, de ces jeunes, très jeunes étudiants qui n'ont connu que la période de Poutine et donc qui sont moins séduits par par l'idée de la stabilité, du retour de l'autorité de l'État, c'est que la demande de liberté et d'initiative individuelle, elle existe dans toutes les sociétés, même en Russie. Et donc, même si aujourd'hui on ne voit pas d'alternative à Poutine, il faut dire qu'il met aussi beaucoup de soin à décapiter tout ce qui dépasse, à écraser l'opposition, à réduire le pluralisme de la presse. Donc on ne voit pas d'alternative. Ça ne veut pas dire que la Russie est condamnée à des systèmes plus ou moins autocratiques d'un point de vue politique. Alors ça, c'est pour la politique intérieure. Est-ce que la démocrature constitue un modèle alternatif? C'est les Russes qui ont la réponse à la question. Et si il y avait un peu plus de liberté d'expression en Russie, on aurait des un avis plus informé sur le sujet. Moi, je suis un peu perplexe là-dessus. Et est-ce que en relation internationale, il arrive à promouvoir une autre un autre modèle? C'est-à-dire, est-ce que l'alliance avec la Turquie et l'Iran lui procure une alternative? On voit bien comment ça lui a permis de jouer sa carte en Syrie. Tout de même, vous utilisiez l'expression, Philippe, dans votre présentation, la Russie a relevé la tête. C'est vrai qu'avec Poutine, la Russie a relevé la tête. Elle est présente là où on ne l'attendait pas. Elle a été très active, à l'initiative, dans des domaines où c'est vrai qu'on l'avait un peu laissée sur le côté, on la considérait hors du jeu sur un certain nombre de dossiers internationaux pendant quelques années. Là, elle s'est réimposée comme un acteur majeur. Maintenant, et puis du point de vue d'ailleurs de la diffusion des idées, la Russie a investi énormément dans des chaînes de télévision, les sites internet, beaucoup d'éléments disons d'information ou de propagande qui ont eu ou qui ont un certain succès. D'ailleurs, on voit bien, y compris en France, on a vu pendant la campagne électorale présidentielle que il y avait des voix qui s'élevaient pour dire, mais après tout, il faut reconsidérer nos position vis-à-vis de la Russie. Il faut peut-être avoir une position plus ouverte. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au bout du compte? C'est vrai que vous avez dressé tous les trois des portraits tout de même en ombre et lumière, où on a le sentiment en fait que sur chaque point où la Russie arrive à avancer, il y a en même temps autant d'ombre au tableau à chaque fois. Par exemple, pour prendre un sujet dont on n'a pas encore parlé, la Russie est très dépendante du pétrole. La moitié du budget fédéral, 70% des exportations du pays dépendent des hydrocarbures. Le prix du dollar sur le marché international est trop bas, donc il y a eu un accord des pays producteurs pour baisser la production de manière à ce que les prix augmentent. Et en fait, les prix n'augmentent pas. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on soupçonne que la plupart des pays ne jouent pas le jeu. Et là, on voit bien ce type d'alliance auquel on a affaire, où les parties prenantes, en fait, jouent tous un double jeu et continuent à exporter leur pétrole au-delà des quotas qu'ils se sont engagés à respecter. Et donc, on voit bien que là, ce type de modèle alternatif ne fonctionne pas vraiment.
Un ami anglais qui a été en poste à Moscou m'a rapporté une blague, une de ce qu'on appelait autrefois sous le communisme les anecdotes qui circulent. On dit que Vladimir Poutine s'est prononcé en faveur des droits de l'homme et annoncé qu'il les respecterait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il envoie des policiers partout. Ah, et pourquoi envoie-t-il des policiers partout? Pour respecter les droits de l'homme? Pour trouver l'homme dont il voudrait respecter les droits. Sylvie Goffman.
Les fameuses anecdotes, oui. Ce qui me frappe, c'est que c'est que Vladimir Poutine, finalement, à la veille de cette nouvelle élection présidentielle, paraît un peu à court d'inspiration. Si on regarde ces différents mandats, on voit que chacun a eu un objectif particulier. Son premier mandat, bon, c'était le règlement de la question tchétchène, et puis rétablir l'autorité de l'État après l'effondrement de l'Union soviétique, l'épisode Yeltsine qui était assez échevelé, si je puis dire. Voilà, c'était et il y est parvenu. Il est parvenu à remplir cet objectif. Le deuxième mandat, c'était plus l'économie. C'était briser le pouvoir des oligarques, en tout cas ceux qui avaient été lâchés par Yeltsin, profitant à ce moment-là de la hausse des prix du pétrole. La conjoncture était bonne, donc asseoir un petit peu son pouvoir économique. Son troisième mandat depuis 2012, c'est plutôt là un renforcement renforcement du pouvoir personnel, un renforcement de l'image internationale, rétablir la Russie dans l'arène internationale, et puis réprimer toute opposition à l'intérieur, avec notamment ces manifestations qu'il y avait eu en 2011, puis l'Ukraine. Et là, on se dit qu'est-ce qui va inspirer cet éventuel quatrième mandat. On ne perçoit pas. Et en revanche, ce qu'on perçoit, ce sont les limites de son modèle. Sur la jeunesse, on en a parlé. On voit que face à Navalny, bien sûr, je ne crois pas que Navalny puisse être candidat puisque il a ses problèmes de condamnation judiciaire. Mais il a un problème là qu'il ne peut pas traiter comme il avait traité Khodorkovsky, par exemple, en l'envoyant pour je ne sais plus combien d'années en prison, 10 ans, et puis finalement en l'exilant, et il a été totalement neutralisé. Navalny n'est pas vraiment populaire, mais ça n'est pas un oligarque. C'est un homme qui a un courage personnel énorme. C'est un juriste qui est en butte à des persécutions quand même, y compris physiques, très impressionnantes, et qui ne lâche pas. Donc il ne veut pas en faire un martyr, mais il voit qu'il y a une agitation dans la rue qui tient le coup, et ça, c'est un vrai problème. Et puis, je crois que la limite de son... On voit aussi les limites de son modèle avec l'échec des populismes en Europe, finalement. C'est quelque chose sur quoi Poutine avait énormément investi, hein, Marine Le Pen, Trump, etc. Et tous ses opposants, tous ces dirigeants de mouvements populistes en Europe, on voit bien que la Russie les a pas mal poussés. Et finalement, cette ascension ne se produit pas. Donc c'est un échec pour lui aussi.
Pardon, Nicolas Pavresse.
Quelques brèves remarques. D'abord, si on regarde le temps long, c'est quand même la troisième expérience de modernisation avortée de la Russie. Au début du XXe siècle, c'était un des grands émergents, et ça a été cassé par la révolution de 17, dont on fête le centenaire. Ensuite, il y a eu le moment soviétique, où on a cru que la Russie allait dépasser les États-Unis à un moment dans les années 50, et puis on s'est aperçu que tout ça était entièrement faux, et elle s'est... L'Empire soviétique s'est effondré de l'intérieur aussi pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, c'est la troisième expérience malheureuse et la troisième modernisation ratée, puisque on peut prendre de tous les côtés quand on a un pays dont la démographie s'effondre, qui dépend entièrement des hydrocarbures et qui n'a pas du tout d'innovation, et qui par ailleurs fonctionne de telle manière que le capital humain est très mal considéré et que c'est un endroit où les cerveaux, les talents et les capitaux fuient. Ça, on ne voit pas comment ça peut fonctionner. Deuxièmement, axe des démocratures, c'est compliqué parce que l'Eurasie, aujourd'hui, il y a plus de Chinois que de Russes en Sibérie. Et par ailleurs, le rapport des économies est tel que la Russie ne peut pas avoir une relation équilibrée avec la Chine, qui, elle, a une stratégie d'expansion autour des routes de la soie qui est beaucoup plus intelligente. Et le troisième, ce qui est en train de se jouer, c'est que la tentative de déstabilisation de l'Occident est sans doute en train d'échouer, parce que on voit que les contre-pouvoirs aux États-Unis fonctionnent et que Trump est mis en échec. Et on va s'apercevoir que les liens de l'équipe Trump avec la Russie étaient sans doute beaucoup plus profonds que ce qu'on pensait. Et en Europe, comme on l'a dit, paradoxalement, non seulement les populismes sont bloqués, mais Poutine a même réussi cette chose extraordinaire que les Européens réarment. Et y compris des pays comme la Suède. C'est en train d'être un échec complet.
François Bujon de l'Étang.
Je voulais simplement dire très rapidement que Sylvie a raison de dire qu'il faudrait trouver un thème pour un nouveau mandat Poutine. Au bout de 17 ans, il faut trouver un thème un peu mobilisateur. Ce thème pourrait être évidemment celui de la diversification de l'économie russe et du développement d'un programme dans le domaine des infrastructures, par exemple, dont la Russie a grand besoin et dont le menu peuple en Russie ne cesse de se plaindre, puisque finalement, les fondrières sur les routes donnent lieu à toutes sortes, à toutes sortes de manifestations de mécontentement. Ça pourrait être le thème. Et il y a eu un certain nombre de changements dans l'administration du Kremlin ces derniers temps, qui ont donné à penser à un certain nombre de kremlinologues qu'il était en train d'amener une nouvelle équipe qui pourrait se mobiliser sur le thème de la diversification de l'économie. Donc ce pourrait être le thème. Mais cela supposerait bien sûr une relative détente avec le reste du monde, car il faudrait pour cela des investissements de l'étranger, de la technologie et une autre forme de relation avec le reste du monde.
Marc-Olivier Patisse.
Oui, Inch'Allah.
Pour suivre d'un mot sur la question de Sylvie, l'objectif à court terme de Poutine en politique, c'est la levée des sanctions occidentales qui lui ont été imposées suite à l'invasion et l'annexion de la Crimée. Or ça, il n'y arrive pas.
Non.
Il n'y arrive pas parce que, d'une part, il pensait que le maillon faible sur ce sujet, c'était l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait des intérêts économiques trop forts avec la Russie pour pouvoir se permettre de rester sur ces sanctions. Or, les Allemands sont au contraire ceux qui promeuvent le plus le maintien des sanctions. Ils ont une inquiétude sous-jacente, c'est qu'ils savent que le Bundestag a été piraté il y a quelques années, que rien n'est sorti de ce piratage, et la classe politique à Berlin soupçonne le fait que le résultat de ce piratage risque de sortir au moment des élections en septembre. Et donc les Allemands sont extrêmement attentifs là-dessus. Et le deuxième point, c'est que avec sa tentative, en fait on ne sait pas s'il y a eu une tentative d'influence, elle est probable, sur l'élection américaine. En tout cas, aujourd'hui, il a braqué tout le monde aux États-Unis, et les républicains sont plus hostiles que jamais à l'idée qu'on puisse les soupçonner d'être sensibles à une influence russe. Et donc là, il a complètement raté sur ce projet prioritaire qui serait la levée des sanctions.
Je vous remercie. Je vous propose que nous jetions un nouveau coup d'œil, après celui de la semaine dernière, à la situation en Grande-Bretagne, puisque Mme May est à la peine. Son projet d'entente avec les unionistes nord-irlandais provoque la polémique dans les rangs des Tories. Ce parti unioniste nord-irlandais s'oppose à l'avortement, qui est toujours illégal en Irlande du Nord. Il plaide pour l'enseignement des théories créationniste et il s'oppose au mariage homosexuel, ce qui est particulièrement sensible à l'aile écossaise du parti conservateur, dont la leader s'apprête à se marier avec sa compagne, je crois, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Une pétition qui s'oppose à l'alliance avec ses unionistes irlandais et à la tentative désespérée de Theresa May de rester au pouvoir a déjà recueilli plus de 750 000 signatures. La dirigeante du Sinn Féin, le parti républicain d'Irlande du Nord, Michelle O'Neill, a exprimé sa crainte que ce rapprochement sape l'accord du Vendredi Saint de 1998, qui avait mis fin à plus de 30 ans de violences intercommunautaires et qui stipulait la neutralité de Londres dans les affaires nord-irlandaises. La légitimité de la Première Ministre à mener les négociations pour un hard Brexit, négociation qui commence demain, est contestée au sein de sa famille politique. Le chancelier de l'échiquier, Philip Hammond, a affiché sa préférence pour un soft Brexit. Il devait prononcer le 15 juin un discours sur sa vision pragmatique de la sortie de l'Union européenne, mais cette allocution devant les dirigeants du monde de la finance britannique a été annulée après le terrible incendie de la Grenfell Tower qui a provoqué la veille plusieurs dizaines de victimes à Londres. Cette catastrophe a d'ailleurs fragilisé la position de Gavin Barwell, le nouveau directeur de cabinet de Theresa May et ancien ministre du Logement, et la première ministre a été prise à partie lors d'une visite sur les lieux du drame vendredi. La popularité de Theresa May est en forte baisse, 29% d'opinion favorable d'après les derniers sondages, tandis que le dirigeant du Labour, Jeremy Corbyn, est aujourd'hui la figure politique la plus populaire du Royaume-Uni avec 46% d'opinion positive. Sur cette question, Nicolas Bavresse.
Madame May aurait dû tirer les leçons de ce qui était arrivé à David Cameron, c'est-à-dire que dans des périodes de grands bouleversements historiques, il faut s'approcher du suffrage universel qu'en tremblant et avec beaucoup de précautions. Et tous ceux qui ont récemment cru qu'ils avaient élection gagnée ont rencontré des déboires extrêmement importants. Donc c'est vrai que c'est un échec cinglant. Madame May n'a plus de majorité. Elle va peut-être arriver à faire une coalition improbable avec les unionistes. Et donc elle voulait un leadership fort et stable. Elle a un leadership faible et instable. Alors au-delà de son sort personnel, on pourrait dire, quitte à faire un peu de franglais, je m'excuse, et en référence à une série télévisée célèbre, qu'aujourd'hui, pour le Royaume-Uni, winter is coming. C'est l'hiver en matière économique. Aujourd'hui, l'inflation est à 2,4, elle va atteindre 3% l'an prochain. Les salaires augmentent de 2%, donc les Britanniques sont en train de s'appauvrir. C'est une économie qui vit entièrement de la consommation. Donc quand le consommateur n'a plus d'argent, ça se voit très rapidement. Deuxième chose très, très inquiétante, bon, la livre a été dévaluée de 16% face à l'euro, de 18% face au dollar, et les capitaux commencent à partir. C'est un pays qui a un déficit courant de 5% du PIB, donc il lui faut des capitaux pour pouvoir tenir. La City est affaiblie et la perspective des négociations du Brexit amène un certain nombre d'entités financières à se redéployer vers l'Europe. Le gouvernement maintenant est extrêmement instable. La Chambre est à peu près ingouvernable et les négociations du Brexit se présentent sous un jour très compliqué. Pourquoi ? Un calendrier très contraint et Madame May avait tout misé sur une stratégie de hard Brexit, donc de Brexit dur, qui aujourd'hui n'a plus de soutien politique. Il n'y a plus de base politique et sociologique à un Brexit dur. Et enfin, il y a les problèmes de sécurité qu'on a rappelés, les attentats, et d'une certaine manière aussi cet incendie qui montre que en matière de régulation, puisque ce que Madame May a vendu, c'est aussi une dérégulation fiscale, sociale, pour lutter contre le continent, et cette dérégulation va être compliquée. Donc, trois leçons. Première leçon, le poison des démocraties, c'est le populisme, et le Brexit l'a encore démontré. Deuxième leçon, dans le monde d'aujourd'hui, les choses vont très vite. En 2 ans, je rappelle que le Royaume-Uni était un pays avec une économie prospère, un gouvernement stable et une influence très forte en Europe. Tout a été détruit en l'espace de 2 ans. Et troisième leçon, avec Monsieur Trump, le Brexit est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Europe depuis très longtemps, puisque paradoxalement, on devait avoir un Royaume-Uni fort et puis des 27 qui se dispersent et qui finalement renoncent à se défendre. On a l'inverse, c'est-à-dire un Royaume-Uni qui est en train de se défaire, y compris avec l'Irlande du Nord et l'Écosse, et une Union européenne qui est en train de se refaire.
Il faut que Madame May fasse vite, parce que c'est mercredi que la reine doit prononcer le discours du trône. Je ne sais pas si elle commencera par « Winter is coming » également. François Bujon de l'Étang.
Il a déjà été retardé, il pourrait l'être de nouveau, le discours du trône. Oui, moi, je souscris tout à fait à tout ce que vient de dire Nicolas Bavrez. J'y ajouterais que je suis frappé par le point auquel Madame May, dans les décisions de ces derniers temps, a été à contre-temps et à contre-sens. Parce que effectivement, elle choisit le grand large contre l'Europe au moment où le grand large avec Monsieur Trump ne va apporter que des désillusions et des problèmes, et l'Europe dont elle s'éloigne retrouve au contraire du poil de la bête, et avec l'élection française et sans doute l'élection allemande à l'automne, risque de rechercher, peut-être de trouver un nouveau souffle dont elle serait absente. Ça, c'est une chose. Mais l'autre raison pour laquelle elle est à contre-temps et à contre-sens, c'est qu'elle a voulu faire cette élection 3 ans avant terme, en réalité, pour se doter d'une majorité plus confortable pour aborder la négociation sur le Brexit. Alors que dans l'esprit des électeurs britanniques, le Brexit est une affaire classée. On a voté dessus il y a 1 an. Ce n'est plus le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'économie, c'est l'éducation, c'est bien entendu la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas le sujet sur lequel elle a voulu faire campagne. Elle était complètement à côté de la cible en réalité. Et du coup, elle a obtenu ce qu'elle devait obtenir, c'est-à-dire un échec. Alors ça, c'est le grand paradoxe de cette élection.
Sylvie Kaufmann.
Alors, je vais faire appel à vos connaissances de latiniste distingué.
Lanus horribilis, c'est ça dont vous voulez parler.
Voilà, septimana horribilis, c'est pas l'anus horribilis de la reine, c'est oui, pour Theresa May, la semaine de l'horreur parce qu'elle vient de vivre, parce que je crois que c'est probablement la pire de sa vie, en tout cas de sa carrière. Et la semaine qui vient ne se présente pas énormément mieux, puisqu'il y a l'ouverture des négociations du Brexit, vous l'avez dit, demain. Le discours de la reine, alors en principe mercredi, mais peut-être incessamment. Et ce discours est donc, évidemment, c'est pas la reine qui l'écrit, comme vous le savez, c'est le discours qu'elle prononce pour présenter le programme du gouvernement. Or, ce programme est totalement flou à l'heure qu'il est, à l'heure où on vous parle. Il y a les négociations avec le DUP, le parti unioniste nord-irlandais, qui ne sont pas terminées, qu'il faut achever rapidement, si possible, parce que le temps presse. Et tout ça avec la tragédie de Grenfell Tower en toile de fond. Et je voudrais revenir un petit peu sur cet incendie, parce que pour moi, il est extrêmement révélateur. C'est un drame beaucoup plus profond, en fait, qu'un simple fait divers, d'abord par l'ampleur, enfin par le nombre de victimes. On en était hier soir à 58 et je crois que ce bilan va s'alourdir. Donc au-delà de même au-delà de ces tragédies de ces familles, Il y a un problème politique qui est mis en lumière ici, un problème social, économique et politique, parce que ce drame met l'accent sur l'envers du décor, finalement, de la réussite britannique, en jetant une lumière crue sur les inégalités. Et ici, on a presque une caricature de cette inégalité, avec cet arrondissement, hein, le borough de Kensington et Chelsea, qui est un des plus riches de Londres, un des plus chics. Enfin, je crois que on pourrait peut-être dire que c'est l'équivalent de notre 6e arrondissement à Paris, qui vit dans une opulence et une insouciance, je dirais, générale. Et puis, au nord de cet arrondissement, il y a ce quartier populaire avec cette enclave de tours HLM. Et c'est là que se trouve cette tour qui a brûlé. Et alors, on découvre, en lisant la presse britannique ces derniers jours, des témoignages sur la manière dont a été menée la rénovation en particulier de cet immeuble de 24 étages. On s'aperçoit que cet arrondissement, le conseil municipal, je crois qu'on peut dire comme ça, de cet arrondissement, avait tellement d'excédents budgétaires qu'il a récemment rendu un chèque de 100 livres aux contribuables les plus riches, parce que c'était ceux qui avaient payé la totalité de la taxe d'habitation, en disant, voilà, on a trop d'argent, on va vous en rendre. Mais à côté de ça, ils faisaient des économies de bout de chandelle sur la rénovation, si je puis dire, sur la rénovation de cet immeuble, en économisant sur le revêtement, qui s'est révélé hautement inflammable. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, c'est un revêtement qui est interdit en Allemagne et aux États-Unis parce qu'il est trop inflammable. Les résidents de l'immeuble s'étaient plaints qu'il n'y avait pas de système de gicleurs anti-incendie, effectivement, il n'y en avait pas et c'est un des problèmes qui s'est posé. Donc l'enquête montrera qui est responsable, si c'est le ministère du Logement, si c'est le conseil municipal. Mais Theresa May est coincée là-dedans parce qu'en plus, la manière dont elle l'a géré personnellement, c'est une femme qui est dans l'obsession du contrôle, qui est très réservée. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'émotion. Elle en a évidemment, mais elle n'aime pas les montrer. Ça peut être un atout pour une femme politique ou un homme politique, mais il se trouve que de temps en temps, les dirigeants doivent aussi faire preuve d'empathie et d'émotion. Et là, elle a terriblement échoué. Elle a été huée quand elle a fini par aller voir les victimes. Et je crois que tout ce contexte l'affaiblit terriblement, humainement et politiquement, au moment où elle entreprend des épreuves, où elle doit faire face à des épreuves politiques à long terme, puisque la négociation du Brexit est vraiment quelque chose d'existentiel et de long terme pour son pays.
Elle garde la lèvre supérieure rigide, comme on dit dans Astérix. Marc-Olivier Padis.
Oui, alors à propos des négociations justement qui doivent s'ouvrir, François Bujon-Létang a dit tout à l'heure, les électeurs sont un peu passés à autre chose, en tout cas le vote pour les législatives ne portait pas prioritairement sur la question du Brexit, ce n'était pas du tout un deuxième tour, savoir est-ce qu'on avait eu raison ou pas de voter pour le Brexit, ils sont un peu passés à autre chose, mais ce qui est tout de même surprenant dans cette situation, c'est d'abord que le référendum pour la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne a déjà eu lieu il y a un an. Et la notification de la sortie, c'est-à-dire l'activation de l'article 50, a eu lieu il y a 3 mois.
Le 29 mars.
Donc, le 29 mars 2019, la Grande-Bretagne sera dehors et les négociations n'ont toujours pas commencé. Les Européens ont donné mandat à M. Barnier, qui est le négociateur pour les Européens, qui est prêt. Visiblement, lui, il le dit, il a une équipe, etc. Côté britannique, on ne sait pas qui va négocier, on ne sait pas avec quel mandat et on ne sait pas avec quel consensus politique. Et c'est quand même tout à fait surprenant. Et c'est encore plus surprenant de penser qu'il n'y a pas eu, dans le fond, de débat commun en Grande-Bretagne, je dirais bipartisan ou transpartisan, sur les intérêts que la Grande-Bretagne a à défendre dans cette négociation, qui est une négociation cruciale pour une voire deux générations à venir au moins en Grande-Bretagne. Et tout se passe comme si c'était une affaire ultra idéologique pour Madame May, qui est tout de même une conservatrice. Je ne sais pas si c'est un hard Brexit, mais elle, c'est une hard conservatrice. Et c'est quand même tout à fait étonnant. Comme l'a dit cette semaine Guy Verhofstadt au Parlement européen, ce ne sont pas seulement les Tories qui quittent l'UE, c'est tout le Royaume-Uni. Et donc ça devrait faire l'objet d'une négociation. D'ailleurs, certains députés conservateurs et travaillistes se rapprochent pour essayer de faire pression sur Madame May pour lui demander à ce qu'il y ait un débat beaucoup plus ouvert sur le type d'intérêt que le pays a intérêt à négocier dans cette négociation. Et le fait d'une alliance avec le parti DUP, qui est un parti protestant extrêmement radical, fondé par le pasteur Ian Paisley en 1971, c'est quelqu'un qui a mis de l'huile sur le feu en permanence en Irlande du Nord, avec ses défilés orangistes dans les quartiers catholiques, on craint un peu le type de concession qu'elle va devoir faire. Et donc tout ça me fait penser que quand on pense à la Grande-Bretagne, on se dit c'est un pays pragmatique et libéral, mais alors là on a affaire au contraire à des attitudes extraordinairement idéologiques et une absence de débat politique qui est vraiment qui nous prend à contre-pied.
Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir puisque la période va bientôt être la période des longs voyages, et notamment des longs voyages en voiture. Je voudrais l'ouvrir en recommandant des livres disques. J'ai déjà eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Personnellement, j'ai un grand usage de ces livres disques qui permettent de donner à des voyages qui, quelquefois, ont un côté un peu monotone quand on va pour la énième fois sur le même lieu de villégiature ou qu'on prend des autoroutes qui sont quand même souvent pas spécialement jolies et un peu ennuyeuses. On peut non seulement écouter la radio, bien entendu, qui est une chose absolument nécessaire, mais on peut aussi choisir qu'on va écouter la lecture d'un texte classique ou d'un texte contemporain. Je recommande 3 de ces livres disques qui ont été édités par la NRF, par Gallimard. Les Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar, lu par Christian Guenon de la Comédie-Française, admirable comédien. Le Un pédigré de Patrick Modiano, lu par Jean-Louis Trintignant, comme on dit bêtement qu'on ne présente plus. Et Le Royaume d'Emmanuel Carrère, lu par Emmanuel Carrère, qui est quelqu'un qui a de multiples talents, dont un, on repasse en ce moment sur une des chaînes du câble, je crois sur OCS, on repasse son film La Moustache, qu'il a tiré de son propre roman La Moustache, roman très étrange, film très étrange, avec un Vincent Lindon admirable, et film très maîtrisé. Voilà donc 3 recommandations que je me permets de vous faire pour vos voyages de vacances. François Bujon de l'Étang.
Moi, je voudrais simplement saluer la mémoire de Helmut Kohl, qui nous a quittés il y a 3 jours et qui a été un des grands personnages de la fin du XXe siècle. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des ombres au tableau, que tout le monde se plaît à souligner, l'affaire du financement de la CDU, l'élection de Trot à laquelle il a voulu se présenter, mais tout ceci ne sont que des ombres qui n'enlèvent rien à la grandeur du personnage, qui était un personnage à certains égards, comme on dit aux États-Unis, larger than life, une énorme personnalité, mais qui a surtout été l'homme de la réunification allemande, qui a, avec énormément de doigté et de talent diplomatique, joué les cartes de l'Allemagne, c'est-à-dire celles qu'il avait en main au moment de la réunification allemande. Et tout le monde se souvient, par exemple, de la façon dont il est allé voir Gorbatchev dans sa datcha pour acheter littéralement l'accord de la Russie soviétique à la réunification allemande, qui entraînait l'évacuation des troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est. Du même coup, Helmut Kohl a été l'homme de l'abandon du Deutschmark en faveur de l'euro, et il a permis à la fois la réunification de l'Allemagne et l'entrée dans l'euro. C'est quelqu'un qui, je crois, a marqué l'histoire de son pays et l'histoire de l'Europe de façon tout à fait extraordinaire.
Sylvie Kaufmann.
Alors justement, en écho à ce que vient de dire François sur Helmut Kohl, je voudrais rappeler, ça m'a remis en mémoire un épisode peu connu de la construction de l'Europe après la fin de la guerre froide, dans lequel François Mitterrand a joué un rôle déterminant. Après la chute du mur de Berlin, Kohl a été évidemment, comme beaucoup de monde, surpris par la rapidité des événements, et il était soumis à la pression du lobby des expulsés, ces Allemands qui avaient été expulsés des Sudètes, de Silésie, de la Prusse orientale, enfin de ces régions qui sont aujourd'hui la Pologne, et qui voulait laisser en suspens la question des frontières, et en particulier celle de l'Oder-Neisse. Et Mitterrand, à ce moment-là, a flairé le danger. Et en 1990, il a vu Kohl au moins 8 fois au cours de rencontres qui ont été assez orageuses, où il est resté d'une extrême fermeté, en lui disant « il n'est pas possible de remettre en question le principe de l'intangibilité des frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale, sinon c'est la porte ouverte à toutes sortes de déstabilisations et de failles ». Et donc, parce qu'il avait une relation personnelle beaucoup plus profonde avec Kohl que Thatcher ou Bush, François Mitterrand a réussi à l'emporter, à convaincre Kohl, qui finalement a cédé et a accepté de consacrer ses frontières.
Marc-Olivier Padis.
Je suis allé chez mon libraire récemment où j'ai trouvé le dernier livre de Philippe Reynaud, un de nos meilleurs spécialistes, je dirais même penseurs de la philosophie politique en France. Donc Philippe Reynaud vient de consacrer son dernier livre à l'esprit de la Ve République. Le sous-titre dit bien l'ampleur du sujet, l'histoire, le régime, le système, donc chez Perrin. Il ne s'agit pas simplement de faire donc une histoire, mais de comprendre ce qu'est cette Ve République en tant que régime et même que, en tant que système et en tant qu'esprit, c'est-à-dire toute la philosophie finalement qui préside à ce régime, qui se révèle à l'usage beaucoup plus souple et adaptable à différentes situations politiques qu'on ne le pensait au départ.
Nicolas Bavrez.
De brève, la première pour prolonger nos discussions sur le djihadisme, les démocratures, le cyber, le livre de Bruno Tertrais, La revanche de l'histoire, qui parle à la fois des crises, des nouvelles menaces et puis des stratégies des démocraties. Et sur un tout autre registre, vendredi sur la Seine, ont eu lieu les premiers essais d'un nouveau véhicule, Sea Bubbles, qui est une bulle, un taxi volant qui souhaite répondre aux embouteillages, notamment des grandes villes, en utilisant mieux les fleuves. Donc ça utilise la technologie des foils, ce sont des petites bulles qui vont sur l'eau avec des moteurs électriques. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de sillage, et ça permettra de désengorger nos villes avec des bulles volantes, et c'est une invention purement et totalement française.
Et nous désirons absolument aller voir et même essayer cette invention, donc nous lançons ici un appel solennel, qu'il n'y a d'appel que solennel, à ceux qui sont les promoteurs de ces bulles pour nous faire goûter à ce mode de transport.
Ça vous avez à la question des voies sur berge.
La question des voies sur berge, c'est une autre question en ce qui me concerne, m'oppose en tout point à Madame Hidalgo qui s'est trompée, qui aurait dû rendre piétonne les quais et non pas les voies sur berge, puisque en piétonnisant les voies sur berge, on a fermé Paris à sa banlieue, et Dieu sait que Paris est déjà suffisamment fermé à sa banlieue, mais il est vrai que l'entre-soi est devenu une valeur pour un certain nombre d'habitants de cette capitale. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez tous les deux, François et Sylvie, parlé de Helmut Kohl, et hier soir, samedi, sur Arte, il y avait un documentaire très factuel, pas très analytique, mais très factuel, sur Helmut Kohl, sur sa carrière politique, et qui rappelle, je suis toujours frappé de la pertinence de cette remarque de Samuel Johnson qui disait « Les gens n'ont pas besoin qu'on leur fasse la leçon, ils ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire ». Eh bien, il est vrai qu'on a besoin qu'on nous rafraîchisse la mémoire, même sur des périodes assez proches, et ce documentaire, sur ce plan-là, remplit pleinement son rôle. Vous avez rendez-vous avec Alain Kruger, il reçoit Patricia Tourancheau. Patricia Tourancheau a été une très remarquable journaliste de la presse judiciaire et policière, si je puis dire. Elle était à Libération, elle avait non pas disparu, mais elle s'était effacée de la presse, et elle publie un ouvrage qui s'appelle Le 36, histoire de poulets, d'indiques et de tueurs en série, et l'émission d'Alain Kruger s'appelle Quand les poulets se mettent à table. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud et préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. La semaine prochaine, ce sera la dernière et même plus précisément l'ultime de nos émissions en public et en direct. J'espère que sinon en direct, car je crois que déjà les réservations sont absolument combles, enfin ce qu'on dit des réservations combles, enfin, il n'y a plus de place en tout cas pour parler français. J'espère que nous vous retrouverons de l'autre côté de ce micro la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour donc cette ultime émission en direct et en public. Thank you.